Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'Afrique, un continent d'histoire. Pour la première fois, le Collège de France va avoir sa chaire permanente d'histoire et d'archéologie des mondes africains. Elle vient d'être confiée à François-Xavier Fauvel qui prononcera sa leçon inaugurale demain, jeudi à 18h. Leçon ouverte au public et retransmise sur le site de l'école. Professeur au Collège de France et directeur de recherche au CNRS, il est un spécialiste reconnu de l'histoire de l'Afrique connectée et a dirigé l'an passé l'Afrique ancienne de l'Akakus au Zimbabwe, auteur précédemment de À la recherche du sauvage idéal au seuil ou encore de Le rhinocéros d'or, des histoires, histoire du Moyen-Âge africain paru chez Alma. Bonjour François-Xavier Fauvel.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut vous présenter un peu d'abord par vos voyages, par vos rencontres, par vos découvertes, Afrique du Sud, Éthiopie, Namibie, Maroc, vous avez beaucoup voyagé et travaillé en Afrique. Comment est née cette passion pour l'histoire du continent ?
Très difficile à retracer, surtout soi-même, une biographie, un parcours intellectuel. En fait, ça n'est qu'un parcours intellectuel. Il n'y a pas eu de vocation d'enfance. Ça n'est qu'un parcours intellectuel, une série d'accidents, une série d'affectations à l'étranger, une série d'opportunités de faire de la recherche, de faire du terrain, de travailler avec des collègues africains et français ou d'autres nationalités sur différents terrains. Et puis aussi une frustration depuis longtemps rencontrée, de n'être pas assez près des sources et assez près des sociétés. J'ai commencé par faire des études de philosophie avant de me rendre compte que c'était pas du tout ce qui m'intéressait, et de faire de l'histoire ensuite moderne et contemporaine, de travailler sur les récits des voyageurs européens qui étaient partis à la rencontre des sociétés sud-africaines, pour constater après quelques années que elle m'apprenait davantage de choses sur les sociétés européennes que sur les sociétés africaines elles-mêmes. Et puis de fil en aiguille est venu cet intérêt pour les sociétés plus anciennes, pour l'histoire plus ancienne et donc pour l'archéologie. Et puis j'ai travaillé ensuite, comme vous l'avez rappelé, en Éthiopie, et là véritablement au contact du terrain, et voilà, et participé à la découverte de villes musulmanes en Éthiopie. Voilà, donc c'est véritablement en fait un parcours comme se construisent tous les parcours de chercheurs. C'est une série d'itinérance internationale et une série de changements disciplinaires, une série de rencontres successives.
Pourquoi cette chaire ici et maintenant au Collège de France?
Est-ce que votre question c'est pourquoi seulement maintenant, ou est-ce que
ça l'inclut?
Oui, bah, disons, il y a sans doute beaucoup de raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'histoire de l'Afrique avant au Collège de France. D'abord parce que il y a dans la société, il faut le savoir, le reconnaître, il existe dans la société une idéologie qui continue de croire ou de laisser croire que l'Afrique n'a pas d'histoire, ou que l'Afrique n'aurait qu'une seule histoire, ou que l'Afrique serait en retard sur l'histoire. Et puis il y a aussi peut-être autre chose, qui est que l'Afrique déroute peut-être un petit peu. C'est un continent absolument immense. C'est un continent qui ne peut pas se résumer à une seule civilisation, comme d'autres aires géographiques ou comme d'autres civilisations, qui sont, elles, depuis longtemps au Collège de France. C'est un continent géographique qui est fait en réalité de plusieurs continents d'histoire, et peut-être que ça a dérouté aussi les collègues du Collège de France depuis très très longtemps.
Alors on imagine, rien que pour choisir le nom, le titre de cette chaire, il a fallu convoquer plusieurs cerveaux pour se mettre d'accord sur chacun des termes, histoire et archéologie des mondes africains.
Alors, vous voulez qu'on passe la prochaine heure, voilà, à décomposer, à faire un commentaire de
texte. Il en faudrait, c'est ça ?
Non, mais histoire et archéologie, d'abord, ce couple-là est intéressant à éclairer.
Alors, couple que vous pratiquez, vous, par ailleurs, oui, comme chercheur sur le terrain aussi.
Hein. Absolument. Histoire et archéologie, parce que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire ancienne de l'Afrique, et bien qu'il y ait en Afrique des sources écrites, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, qu'il y ait des traditions lettrées dans plusieurs sociétés africaines, et qu'il y ait même des traditions d'écriture de l'histoire dans plusieurs sociétés africaines, un renfort essentiel de la recherche, c'est l'archéologie. Bon. Et il y a en Afrique un très très gros potentiel de la recherche archéologique, avec des villes qui sont encore sous nos pieds et qu'il faut trouver. Et donc histoire et archéologie, tout simplement parce que ce sont deux disciplines, les sources écrites et l'archéologie, qu'il faut arriver à faire parler ensemble pour arriver à renouveler les connaissances. Et pourquoi des mondes africains? Parce que
C'est ce que vous avez commencé à évoquer.
Voilà, c'est parce que je ne me voyais pas dire de la civilisation africaine ou de l'Afrique. Ça aurait été une certaine, à la fois très rabaissant pour l'Afrique, qui est en réalité beaucoup plus multiple qu'on veut le croire. Et puis surtout, ça aurait été faire croire que j'étais moi-même spécialiste de toute l'Afrique, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis spécialiste de certains des mondes africains, de certaines périodes. Et il y a la place pour que d'autres collègues, d'autres régions du monde, de différents pays africains ou de différents pays européens, ou d'Amérique viennent profiter de cette chaire pour venir parler eux aussi de leur spécialité.
C'est la romancière Léonora Miano qui était avec nous autour de cette grande table à l'occasion de la sortie de son dernier roman Rouge Impératrice, et qui se revendique elle-même panafricaniste de cœur, qui a choisi d'appeler dans ce roman ce continent Katiopa, un autre nom pour parler de l'Afrique, car elle estime que ce terme reste extérieur, qu'il a été imposé par les autres.
Le mot Afrique. Oui, alors c'est un terme qui a une très 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 longue histoire, que je retracerai d'ailleurs dans l'un de mes cours cette année.
Il faut s'inscrire alors pour avoir la réponse ou vous...
Il ne faut pas s'inscrire, non. C'est entièrement libre, c'est et libre. Gratuit. Okay. Vous pouvez pousser la porte et rentrer à l'heure. Voilà, les horaires sont trouvables sur le site internet. C'est totalement libre et gratuit, sans préinscription. Et voilà, c'est un nom qui a une très très longue histoire. Il est vrai que le mot Afrique a été imposé de l'extérieur par des voyageurs, comme le mot Guinée d'ailleurs, comme le mot Éthiopie, qui sont tous des mots qui ont leurs racines dans des langues européennes. Mais c'est pas tout à fait vrai du mot Afrique lui-même, qui remonte en réalité à un ethnonyme qu'on pense être berbère, affaire, voilà, et qui désignait une petite partie de l'Afrique du Nord, de la Tunisie actuelle, il y a de ça 2500 ans.
On va rester avec ce terme, en tout cas jusqu'à 13h30, et avec vous, François-Xavier Fauvel. Vous avez évoqué notre déni aujourd'hui de conscience et de science par rapport à cette histoire africaine. Dans les mots que vous prononcerez au Collège de France demain lors de votre leçon inaugurale, il est question de cette Afrique qui ne souffre pas, comme certains l'ont dit, d'un défaut d'histoire. On va remonter au discours de Dakar, Nicolas Sarkozy, le 26 juillet 2007.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire, où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin.
Discours extrêmement stigmatisant quand on le réécoute bien, qui aussi fait dire ou laisse croire que l'Afrique serait un continent sans avenir et, point d'interrogation, un continent sans histoire ou sans passé.
Oui, moi j'habitais en Éthiopie quand ce discours a été prononcé. J'ai pu en mesurer l'effet, l'impact, le choc sur mes collègues et amis éthiopiens. Et oui, c'est un discours d'une très très grande violence.
Qu'est-ce qu'il a provoqué chez vous, ce discours?
Alors,
vous l'avez entendu.
D'abord, effectivement, une stupéfaction qu'on puisse prononcer ce genre de discours. Et puis très rapidement, je me suis dit, mais enfin, un discours comme ça ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont écrit. Il y a probablement une armée de gens qui l'ont relu. Il y a des diplomates français dans le pays qui l'ont eu entre les mains et qui auraient pu à n'importe quel moment tirer le signal d'alarme en disant, mais vous savez, monsieur le président, c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça se passe. Bref, ce discours, il n'émane pas d'une personne. En réalité, il émane d'une société. Et il dit assez bien ce qu'est chez beaucoup de nos compatriotes et chez beaucoup de gens de nos sociétés contemporaines en général, et pas seulement de la société française. Il dit ce qu'est chez beaucoup de gens la perception de l'Afrique, c'est-à-dire C'est-à-dire effectivement un continent immobilisé dans une espèce de répétition en prise avec la nature, etc. Enfin, tout ce qu'on vient d'entendre. Notez bien que au-delà de ce discours et de son caractère provocant, ce sont des choses qu'on retrouve aussi très souvent dans les musées. Pensez à la façon dont on nous éclaire la signification de tel ou tel objet, mettons d'un masque, et dont on éclaire la signification par un petit cartel, un petit panneau en bas qui pense pouvoir nous dire en quelques mots l'ethnie, la date, etc. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Ça veut dire que l'Afrique serait résumable à des petites nappes comme ça, culturelles, immobiles, entièrement homogènes, juxtaposées les unes aux autres, et tout ça aussi sans histoire. Bon. Rien de tout ça ne tient, et tout ça est extrêmement révoltant, mais dit quelque chose, voilà, de l'état de notre société.
Est-ce que vous appelez ce déni aussi, hein? L'Afrique ne souffre pas d'un défaut d'histoire. Ce sont nos sociétés contemporaines qui souffrent d'un déni de l'historicité des sociétés africaines. Ce déni qu'on vient d'évoquer. Pourquoi existe-t-il? Alors là encore, l'histoire peut-être de ce déni est longue, mais surtout maintenant, comment lutter contre ce déni? C'est cette mission, j'imagine, que vous êtes aussi attribuée, et contre les préjugés qu'on peut avoir.
Vous avez raison de souligner ce fait-là, c'est que ce déni n'est pas simplement quelque chose qu'on peut écarter d'un revers de la main comme s'il ne devait pas exister et puis se mettre au travail. Non, il fait partie du travail que nous avons à faire que d'en faire l'histoire, que de remonter, que de comprendre pourquoi. J'expliquerai demain dans ma leçon inaugurale, je passerai du temps sur ça pour expliquer d'où vient cette conception. En deux mots, on peut dire ici, elle vient de plusieurs siècles d'enracinement dans nos mentalités modernes, d'une habitude de penser que les Africains n'ont pas de singularité, n'ont pas de personnalité, voilà, n'ont pas d'épaisseur historique, parce que cette idéologie, elle accompagne en réalité, elle est le vêtement impudique qui accompagne le crime de la traite des esclaves. Bon. Donc il y a plusieurs siècles comme ça de déni enraciné, et même si aujourd'hui nos sociétés contemporaines sont débarrassées de la traite des esclaves, elles continuent à véhiculer cette habitude de concevoir l'Afrique, de regarder l'Afrique de loin et de haut en pensant qu'elle n'est pas inscrite dans des trajectoires, donc des trajectoires qui viennent du passé et qui se continuent vers l'avenir. Bon, il est assez facile de recommander des lectures pour dépasser ce déni. On peut recommander aux gens de lire Achille Mbembe, par exemple, et de constater avec lui que à mains égards, l'Afrique, avec ses ratés politiques, avec ses expériences sociales très très diverses, et peut-être au contraire en avance sur ce qui vient, sur l'histoire, sur ce que deviennent nos sociétés contemporaines. Achille Mbembe parle aussi de la condition nègre. C'est le titre qu'il a donné à l'un de ses ouvrages. Cette condition nègre, c'est quoi? C'est la condition qu'on a faite à certains segments de l'humanité il y a quelques siècles, et qui s'universalise aujourd'hui, cette machinisation de l'individu, cette anonymisation de l'individu. Achille Mbembe l'a fait remonter plusieurs siècles en arrière, et je pense qu'il a raison.
Niamey, 1984, l'auteur de Civilisation ou Barbarie, l'historien, anthropologue sénégalais cher Anta Diop, qui a contribué à montrer l'apport de l'Afrique à la culture et à la civilisation mondiale, revient sur l'Afrique, berceau de l'humanité.
Au tout début donc, maintenant, cette question ne se dispute plus, ne se discute plus âprement, mais il y a une trentaine d'années, pour être sérieux, il ne fallait pas considérer que l'Afrique puisse être réellement le berceau de l'humanité. C'était une idée qui paraissait extrêmement saugrenue, et il fallait même faire preuve d'un grand courage intellectuel pour avancer une telle pensée. Depuis, la recherche s'est développée et vous en connaissez les résultats. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité.
Voilà, 35 ans après, François-Xavier Fauvel, vous n'estimez pas que cette idée est saugrenue?
Non, en fait, Cheikh Anta Diop a même raison de souligner qu'il y a eu des résistances à l'acceptation de cette idée que l'Afrique était le berceau de l'humanité. On pourrait même dire aujourd'hui, à la lumière des travaux de paléontologie les plus récents, que cette idée a été en quelque sorte dépassée et démultipliée, parce qu'on sait maintenant que l'Afrique a été plusieurs fois le berceau de l'humanité au cours des derniers millions d'années. Je voudrais cependant quand même pointer une possibilité de déviation perverse de cette idée de l'Afrique origine de l'humanité. C'est un discours qu'on rencontre parfois, qui est cette insistance exclusive sur les origines, comme pour nous faire oublier que après les origines, il s'est encore passé quelque chose. C'est-à-dire que les hominidés, les hominines, les humains, hommes et femmes modernes, qui sont sortis à plusieurs moments du berceau africain, n'ont pas fait qu'en sortir et n'ont pas abandonné le navire au moment où ça devenait intéressant. Ils sont aussi restés en Afrique. L'histoire s'est continuée en Afrique à chacune de ces étapes. Voilà, insister trop de façon trop focalisée
sur les
origines, voilà, peut nous faire oublier que l'histoire s'est continuée en Afrique et que les sociétés y ont aussi développé des formes culturelles tout à fait originales.
Voilà, l'histoire a eu une suite et cette histoire a eu un avenir. Oui. C'est le cas de le dire. Une histoire incomplète, une documentation à trous. C'est aussi ce qui semble vous fasciner, vous, François-Xavier Fauvel, dans ce champ très très large d'études que sont aujourd'hui les mondes africains. On imagine que vous allez là encore, dans vos cours, dans vos recherches, privilégier cette dimension pluridisciplinaire, comme vous l'avez fait jusqu'ici, en faisant notamment une place à l'archéologie, mais aussi à la littérature. Pourquoi ça s'impose tout particulièrement quand on est un historien des mondes africains?
Oui, l'une des choses que je trouve très intéressante dans ce métier d'historien de l'Afrique, c'est que on n'est pas contraint d'être dans le mimétisme des autres formes d'histoire qui ont lieu ailleurs, et en particulier pas dans la façon de raconter, de narrer cette histoire. Et l'un des défis qui se présente à nous, et qui est aussi une ressource intellectuelle, méthodologique et intellectuelle pour nous autres, les historiennes et historiens de l'Afrique, c'est précisément de pouvoir raconter les choses d'une façon différente. Et parmi ces façons différentes, il y a par exemple la forme de l'enquête, voilà, qui est l'une des formes qu'affectionnent les historiennes et historiens de l'Afrique. Pourquoi enquête? Parce que l'enquête est par définition toujours inachevée et qu'il y a tant à faire encore sur le continent africain. On ne peut pas toujours en Afrique présenter les états de la recherche définitifs, et il faut souvent savoir se contenter d'état de la recherche suspendue à la prochaine découverte. Bon. Pensez par exemple à l'histoire du Mali. Comment faire pour raconter l'histoire du Mali avec tout ce qu'on sait? Et on sait beaucoup de choses sur l'histoire du Mali, mais on ne sait pas où était la capitale au milieu du XIVe siècle du royaume du Mali. Donc évidemment, c'est selon qu'on trouvera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la capitale du Mali dans telle ou telle région du Mali actuel ou pas, ou des pays voisins, on racontera évidemment l'histoire de façon très très différente.
Ça fait partie de vos grandes quêtes aujourd'hui?
C'est pas seulement la mienne, c'est celle de tous les historiens.
Et vous travaillez dessus en ce moment?
Je travaille sur ces périodes anciennes ou médiévales. Oui, ça fait partie des mystères irrésolus. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais on le sait qu'il y en a beaucoup d'autres parce qu'on a des sources grecques anciennes, on a des sources arabes, on a des sources écrites en arabe à Tombouctou, écrites en arabe dans d'autres, ou écrites en gaze en Éthiopie, qui soulignent l'existence d'un certain nombre de sites, de villes, et qui ne nous permettent pas encore de les trouver. Donc on sait que beaucoup de choses nous attendent encore dans le sous-sol.
Résolue ou pas, une histoire que vous connaissez bien et que vous allez pouvoir nous raconter est celle de la Vénus Hottentote.
Un cercueil recouvert du drapeau sud-africain, des obsèques solennelles au rythme des danses traditionnelles. Les autorités sud-africaines ont choisi la journée nationale des femmes pour rendre à sa terre natale les restes de Sarah D. Bartman. Car celle qui reste connue sous le nom de Vénus Hottentote est aux yeux de tous ici un symbole, celui des Africains victimes du racisme et du colonialisme.
Quand elle est morte, Sarah Bartman avait été éclairée sur les méthodes et la barbarie de ceux qui se disaient l'homme par excellence. Mais elle n'avait pas été domptée. Bien que son peuple n'ait pas connu physiquement l'Europe, cette Europe appelée à diriger des empires, lui aussi a été éclairé sur les méthodes et la barbarie de l'homme par excellence. Comme elle, il n'a pas été dompté.
De quoi cette Vénus est-elle le symbole pour
de quoi est-elle, oui, de quoi est-elle le symbole ou de quoi est-elle le nom? Elle est le nom de cette histoire, précisément, de cette longue histoire de regard porté par l'Occident sur l'Afrique, en l'occurrence sur le sud de l'Afrique. L'histoire de cette femme qui, vous le savez sans doute, a été exhibée au tout début du 19e siècle en Angleterre, puis en France, etc., a fait l'objet d'une espèce d'engouement populaire. Et dont les restes mortels sont restés ensuite en France au Musée de l'Homme jusque dans les années 1970 à Paris et qui ont ensuite été restitués à l'Afrique du Sud dans les années 2000. On a donc là une espèce de trajectoire de son vivant et puis ensuite après sa mort dans les deux sens, dans le sens Afrique du Sud, Europe et puis dans le sens Europe, Afrique du Sud qui exprime en raccourci l'histoire alternée de ces regards entre ces deux régions du monde et puis le retour, la restitution, puisque c'est quand même de ça qu'on parle, la restitution des restes funéraires de Sarah Bartman à l'Afrique du Sud et donc qui est réenterrée dans le village près de Hanki où elle était née.
Et vous avez beaucoup travaillé sur les Hottentotes, hein, justement sur ce peuple du sud de l'Afrique.
Oui, j'ai consacré à cette société, oui, qui m'intéresse beaucoup depuis très très longtemps, plusieurs livres, et dont deux livres, voilà, en fait, l'un de mes premiers qui s'appelait L'invention du Hottentot, qui était une histoire de la façon dont s'était construit ce regard négatif, ce regard péjoratif sur les sociétés du sud de l'Afrique en Europe, et puis un livre beaucoup plus récent qui s'appelle À la recherche du sauvage idéal, qui déconstruit, qui remonte dans le temps pour essayer d'aller retrouver, de repartir à la rencontre, en quelque sorte de réorganiser la rencontre ratée avec cette société qui a disparu au début de l'époque moderne.
François-Xavier Fauvel est notre invité jusqu'à 13h30. Vous serez donc le premier à occuper cette nouvelle chaire avec une conviction bien ancrée. L'Afrique a une histoire singulière, une histoire bien à elle, au-delà de la colonisation. On continue à en parler avec vous. France Culture, il est 13h18.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
On peut donner un autre exemple, parce qu'ils sont toujours parlants, François-Xavier Fauvel. C'était le titre de votre ouvrage paru en 2013, Le rhinocéros d'or. Intéressant parce qu'il y racontait non pas une grande histoire, mais des histoires du Moyen-Âge africain. Ce rhinocéros d'or, cette figurine, est-elle aussi extrêmement symbolique? Quelle place dans l'histoire sud-africaine? Quelle controverse a été suscitée par cette petite figurine?
C'est très intéressant. C'est un petit rhinocéros en or qui vient d'une tombe qui a été pillée dans les années 30 par des colons blancs qui allaient faire un pique-nique sur une colline tout au nord de l'Afrique du Sud. Ça se passe près de la rivière, près du fleuve Limpopo qui fait la frontière avec le Zimbabwe. Et ces quelques colons blancs qui ont déterré, comme ça, qui ont fouillé en tous sens, qui ont remué le sol, comme font souvent les pilleurs du dimanche, voilà, ils ont récupéré de l'or. Et puis quelques semaines plus tard, l'un d'eux, pris de remords, a écrit à son ancien professeur d'histoire à Pretoria, qui s'appelait Léo Fouché, un africaneur libéral, qui était historien, très très grand historien du reste, et qui a tout de suite, au nom de l'État, acheté la ferme, sanctuarisé la ferme où était cette tombe, et puis organisé des fouilles qui ont duré plusieurs décennies. Très important parce que ce sont plusieurs tombes en réalité qui ont été retrouvées dans les conditions donc d'un pillage. Bon, mais néanmoins, les archéologues ont pu faire leur miel de cette situation-là, retrouver beaucoup d'autres choses et s'apercevoir qu'on avait là des tombes appartenant à quoi? C'est la question, puisque sans écrit, on ne peut pas qualifier cette société. Était-ce un petit royaume? Était-ce une chefferie? Était-ce organisé différemment? On n'en sait rien. Ce qu'on peut dire, c'est que les élites qui se sont fait enterrer au sommet de cette colline étaient capables d'organiser un commerce à très longue distance avec d'autres régions du monde par l'intermédiaire de la côte Swahili, donc le Mozambique et la Tanzanie actuelle, et puis au-delà de ça l'océan Indien, et puis au-delà de ça les pays riverains de l'océan Indien, et puis au-delà de ça la Chine. Comment le sait-on? Parce qu'on retrouve tous ces objets dans les tombes de Mapungubwe. Le site s'appelle Mapungubwe, la colline au Chacal, en Shona. Et voilà, donc on est capable de dire, sur la base de ce site archéologique, mal trouvé, bien fouillé ensuite, qu'on a eu là une petite société de l'intérieur du continent, du Moyen-Âge, voilà, et connectée avec d'autres régions du monde, et participant d'une certaine façon, c'est ce que j'ai voulu dire aussi dans le Rhinocéros d'or, participant d'une certaine façon à une espèce de conversation globale des sociétés, connectées les unes avec les autres. En témoignent ces marchandises qui circulent à travers tout le vieux monde, de sud de l'Afrique jusqu'à la Méditerranée et jusqu'à la Chine.
Alors quand on parle de pillage, quand on parle de circulation, on peut aussi parler ensuite de restitution. Jacques Chirac avait donné son nom au musée du Quai Branly, passionné qu'il était d'arts africains. Ce musée inauguré en 2006, non sans polémique, avec des accusations de relents colonialistes et impérialistes au moment de son ouverture. Cette chaire que vous allez occuper, François-Xavier Fauvel, n'a pas fait heureusement l'objet ou le sujet de telles controverses. Peut-être certains auraient aimé qu'elle revienne à un Africain. C'est notamment un souhait qui avait été formulé par Achille Mbembe, que vous citiez sans rancune à l'instant, au début de cet entretien. Mais vous avez aussi tous expliqué que beaucoup des chercheurs préfèrent aller, ce qui aurait pu être votre parcours et votre parcours universitaire, enseigner aujourd'hui ou faire partie de centres de recherche aux États-Unis. Un mot là-dessus, et avant de revenir sur la question des biens culturels.
Personnellement, je vois pas du tout l'état de la recherche comme un combat chromatique entre historiens de différentes couleurs de peau ou de différents continents. Les parcours aujourd'hui, les formations et les parcours ne se font pas de cette façon-là. Le milieu de la recherche en histoire ancienne de l'Afrique et en archéologie de l'Afrique est très international. Il associe des Africains de différents pays, il associe des Européens, des Américains, et puis des Japonais, et puis des Australiens, etc. Et tous ces gens-là circulent, travaillent, collaborent ensemble, organisent la grande conférence des études africaines, tantôt en Europe, tantôt en Afrique, tantôt aux États-Unis. Les langues parlées sont le français et l'anglais, ou d'autres langues d'érudition, etc. Donc bref, les parcours se font de façon très très multiple, les gens circulent d'un continent à l'autre, et c'est de cette façon-là, ça n'est que de cette façon-là que ça peut fonctionner.
Et ça vous oblige, mais vous l'étiez probablement déjà, à rendre ces récits disponibles aussi au plus grand nombre, à faire circuler ces savoirs que vous allez mettre à jour aussi à travers cette chaire d'histoire et d'archéologie des mondes africains du Collège de France. Comment faire d'ailleurs un lieu ouvert, un lieu de circulation? Comment faire se rencontrer les chercheurs? Vous avez déjà des projets, une manière de l'organiser?
Personnellement, je vois cette chaire du Collège de France que je vais animer comme une plateforme parmi quelques autres, pas très nombreuses, mais quelques autres qui existent sur Terre. Il en existe plusieurs en Afrique, il en existe plusieurs aux États-Unis, il en existe plusieurs en Europe. Et l'occasion qui va être donnée là, c'est d'utiliser le Collège de France comme l'une de ses plateformes pour inviter, faire circuler, échanger, former des doctorants, des étudiants, et rendre disponible. Voilà, vous avez dit à mon avis la bonne phrase, rendre disponible. Il y a aujourd'hui rien de plus urgent que ça, parce qu'en fait, il y a un manque d'Afrique, il y a un manque d'histoire de l'Afrique partout, dans toutes nos sociétés contemporaines, en particulier chez celles et ceux de nos compatriotes qui sont d'origine africaine, mais pas seulement. Il y a un manque d'Afrique tout court, et combler ce manque passe nécessairement par l'exercice de cette responsabilité-là qui consiste à rendre disponible. Voilà, c'est trop facile de se réfugier dans sa spécialité, d'étudier les sources dont on est spécialiste, de publier dans des revues dites à comité de lecture, mais inaccessible à la plupart des gens. Voilà, il y a aussi une responsabilité à exercer qui est de rendre disponibles les savoirs.
Alors 2018, l'an passé, publication du rapport sur la restitution des biens culturels, rapport qui préconisait le retour définitif et sans condition sur le continent africain des œuvres d'art africaines présentes sur le territoire français. À l'origine, deux auteurs, Bénédicte Savoie et Felwine Sarr, qu'on écoute.
Des fois, on nous reporte le propos selon lequel ces objets sont totalement désincarnés, dévitalisés et qui n'auront plus de fonction dans les communautés. Il y a des communautés pour lesquelles ces objets ont encore des fonctions, y compris des fonctions qui peuvent être réinventées. Et je pense que ce dialogue-là nous a permis aussi de déplacer la problématique en montrant qu'en fait, le musée occidental 19e siècle est une occurrence qui a une historicité, qui a sa cohérence interne, mais ce n'est pas le seul rapport au patrimoine. Et peut-être un universel qui se respecte, c'est un universel qui est pluriel, qui prend en compte la pluralité des options et la pluralité des occurrences sur une question comme ça. Et ça, c'est important de le dire lorsqu'on nous oppose l'argument du musée en disant, avant le musée, il faut d'abord se poser la question de la fonction à laquelle on assigne ces objets.
À quelle fonction assigne-t-on ces objets? Est-ce que c'est la bonne question aussi à se poser?
Félouin Sarr a totalement raison et il a une vision extrêmement claire de cette restitution. Je ne peux que partager à 100% les conclusions du rapport de Bénédicte Savoie et Félouin Sarr. Voilà, restituer et sans condition. Toute condition qui serait posée à la restitution ne serait que la réactivation de vieux réflexes colonialistes consistant à douter. Voilà, à douter de la pertinence de restituer, à douter des compétences des partenaires à qui on rend, à douter de l'existence dans les publics africains d'un intérêt pour ces objets-là. Voilà. Et la seule chose que je peux ajouter, mais je ne l'ajoute pas en tant qu'historien, je l'ajoute en tant que citoyen, c'est l'exigence qu'il y a à restituer bien, c'est-à-dire à restituer, accompagné, comme d'ailleurs vient de le dire Félouin Sarr, de toutes les potentialités de récits qui vont avec ces objets. Le pire serait de restituer en donnant l'impression de se débarrasser d'une patate chaude, voilà, ou de se débarrasser d'un problème identitaire ou politique ou quel qu'il soit. Voilà. Il faut savoir restituer, mais il faut savoir restituer avec dignité, voilà,
mais c'est nous qui les avons entre les mains, ces récits qu'il faudrait aussi restituer avec les œuvres d'art,
oui,
une partie d'entre eux.
Absolument, parce que non seulement, si vous voulez, non seulement ces objets ont été pris en Afrique, mais beaucoup d'autres choses ont été prises en Afrique. Les traditions orales ont été recueillies depuis un siècle et demi, mais leurs recueils sont souvent accessibles dans des livres rares qui sont dans les grandes bibliothèques d'Occident. Les grandes monographies archéologiques coûteuses, etc., sont souvent aussi dans des bibliothèques d'Occident. Beaucoup de chercheurs africains dans beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas accès aux ressources que sont les sources arabes, que sont les recueils d'inscriptions, que sont etc. Donc oui, il y a un travail de restitution, mais il y a aussi un travail de mise en commun de ressources beaucoup plus générales, au-delà même de ces matérialités que sont les objets prisonniers dans des vitrines.
Ça va être une belle aventure pour vous, cette nouvelle chaire qui est donc créée aujourd'hui au Collège de France.
Oui, aventure, ça c'est certain. Aventure avec tout ce que ça implique c'est-à-dire de responsabilité, de mise en partage, etc. Bien sûr, mais je le prends comme ça. Et je ne fais pas partie des chercheurs qui travaillent isolément. J'ai toujours travaillé de cette façon-là. Et par conséquent, le défi qui m'est donné aujourd'hui, c'est celui de ne pas m'enfermer dans ma spécialité, et au contraire de continuer ce travail-là de mise à disposition des savoirs et de partage.
On vous souhaite bonne chance.
Merci
beaucoup. François-Xavier Fauvel d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre leçon inaugurale aura lieu demain, jeudi à 18h au Collège de France. Elle est ouverte au public et pour ceux qui ne pourraient pas être là à Paris, elle sera retransmise sur le site du Collège. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien, avec Thibaut Nassim Ben, et à la vidéo, Jordan Fuentes et Morgane Danang. En gros, merci à tous.